quand les choses vont bien, et quand il y a des incertitudes, et même quand les choses vont mal. Il est ce Dieu qui ne se dédie pas. Il est toujours avec nous. Nous avions commencé il y a quelques dimanches de cela, ce thème de vivre notre foi avec conviction, d'être ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens et le Seigneur nous encourage à vivre comme des chrétiens. Ça paraît une évidence quand on dit ça, mais en même temps on voit que dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, le Seigneur donne aux apôtres de rappeler aux églises, aux chrétiens, d'être ce qu'ils sont. Et le dimanche dernier, nous avions, lors de la Sainte-Seine, je vous avais remis un petit questionnaire qui s'intitulait « Le besoin de réveil personnel ». On sort de cette période de l'été de vacances et c'est bien pour se remettre un peu d'entrain, de pouvoir aussi se questionner soi-même, n'est-ce pas? Alors ces questionnaires, j'en ai quelques-uns là, on les mettra là tout à l'heure. Mon encouragement, c'est que ceux qui ne l'ont pas reçu dimanche dernier, vous venez le prendre. On va rentrer dans une semaine de jeûne et prière. C'est un questionnaire qui peut aussi vous permettre, dans ce temps de jeûne et prière, de pouvoir passer du temps en vous questionnant, mais en demandant aussi des réponses à Dieu dans la prière et dans la Bible. Donc là, j'ai mis quelques-unes de ces questions. Il y en a 12. On en avait vu quelques-unes dimanche dernier. Et là, c'est un encouragement. Est-ce que j'ai constamment à cœur l'importance de la parole de Dieu pour ma vie personnelle? Est-ce que tu as toujours cette soif, toujours cette envie de la lire, de la méditer, n'est-ce pas? Et ta relation avec Dieu? Nous sommes des évangéliques et nous croyons que Dieu est vivant et qu'il veut entretenir une relation vivante avec chaque chrétien. Est-ce que ta relation est devenue froide, distante, intermittente, irrégulière, banale, dépourvue de tout sentiment profond? Qu'est devenue ta relation avec l'Église? Est-ce que c'est devenu une affaire trop compliquée? C'est toute une difficulté pour venir à l'Église? C'est devenu un poids pour venir à l'Église? C'est de mauvais indices, hein, quand ça commence à faire comme ça. Il faut se remettre devant Dieu. Venir à l'Église, ça doit être quelque chose de joyeux. Même si on a des soucis, même si on travaille des épreuves, au contraire, on doit être encouragé. Est-ce que je suis encore touché par le malheur de ceux qui n'ont pas le Seigneur? Est-ce que c'est quelque chose qui me laisse pas tranquille? Déjà dans ma propre famille, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et puis ensuite, voilà, tous ceux qui, comme nous étions autrefois, des gens sans Dieu aussi. Et puis enfin, est-ce que je suis sensible à l'importance et au rôle de l'Église dans le monde, à la place que toi, que moi, que chacun doit tenir dans ce rôle de l'Église? Vous savez que l'Église, ce n'est pas d'abord le bâtiment, c'est le rassemblement de tous les enfants de Dieu. S'il n'y a pas d'enfants de Dieu, il n'y a pas d'Église. On peut avoir un joli bâtiment, mais si les enfants de Dieu n'y sont pas, ce n'est pas une Église, ce n'est qu'un monument. Donc que le Seigneur nous aide à visiter ces choses. Et puis, je suis quelqu'un qui aime regarder beaucoup des films, les science-fiction. Vous savez que les réalisateurs, les cinéastes communiquent une vision du monde quand ils réalisent un film. On croit généralement que les films sont neutres. Les films ne sont pas neutres. Ils nous communiquent quelque chose que le réalisateur, que le cinéaste, que toute l'équipe veut communiquer au monde. Et vous savez, il y a des audiences, hein, ça s'appelle le box-office, hein, pour voir quel est le film qui a fait plus d'audience. Et c'est quelques années, l'une des séries qui a marqué le box-office, c'est les Avengers. Apparemment, ils ont fait même le dernier. On va voir. Mais la philosophie des Avengers, c'est ceux qui protègent le monde contre les destructeurs du monde. C'est fort comme thème. Ceux qui protègent le monde contre celui qui veut détruire l'humanité et la planète Terre. Ça nous rappelle quelque chose, ça. Ça nous rappelle quelque chose. Et toutes ces séries, tous ces super-héros, il semble que celui qui les a créés, il est décédé il n'y a pas longtemps. Mais il en a créé plein comme ça, de super-héros. Toujours des gens parfois anonymes qui sont tout à coup optimisés, comme ils le disent, avec un truc qu'il découvre de lui-même ou que la science lui donne. Et puis du coup, il devient un super-héros pour défendre l'humanité. Mais la Bible dit quelque chose de fort sur toi et sur moi en tant que chrétien. Et parfois, c'est pour ça que notre identité chrétienne, il faut qu'on la connaisse. Si on la connaît, on va voir que nous ne sommes pas dans la science-fiction. Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu nous a placés pour avoir un rôle dans le monde et pour jouer un rôle dans ce monde-là. Et on n'est plus dans la fiction, là. On est dans la réalité de la création de Dieu. Dans la réalité de la création de Dieu. Tu mets la diapo d'après, s'il te plaît. J'avais intitulé le message de la foi dernière, Jésus, lumière sur ma façon de vivre. C'était le 1 et ça c'est le 2. Pourquoi et comment? Pourquoi Jésus doit être lumière sur ta façon de vivre? Toujours en lien avec ce que je viens de dire là. Nos vies en tant que chrétiens ont une importance pour Dieu dans le monde. Il faut qu'on s'en rende compte pour que nos vies soient des vies simples, mais des vies vécues avec cette grâce de Dieu. Vas-y. Pourquoi? Pourquoi? Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Vous savez ce texte qu'il a dit? C'est l'apôtre Paul qui écrit dans l'épître aux Romains et qui s'adresse aux Juifs. Le Juif, au moment où Paul parle, c'est le peuple qui est considéré comme le peuple de Dieu. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu, qu'ils soient juifs, non-juifs, peu importe. Et on trouve ce texte dans Romains chapitre 2, 17 à 24. Il dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Quand on lit tout ce chapitre, l'apôtre Paul commence par dire que désormais, dit simplement qu'on est croyant, c'est pas ça qui importe. Parce que le juif disait, je suis né juif, je suis né enfant de Dieu. Et finalement, ça voulait dire, peu importe ce que je fais, peu importe comment je vis, de toutes les façons, je suis un enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il dit, tu es juif, tu connais la loi, tu es né dans la loi, tu as été enseigné depuis tes 12 ans dans la loi. Mais que fais-tu de cette loi? Et j'ai sauté volontairement le verset 22, parce que dans le verset 22, il dit, toi qui dis de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis que la loi dit de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui dis que la loi dit de ne pas être idolâtre, tu es idolâtre. Donc finalement, il dit aux Juifs, vous vous targuez de dire que vous connaissez la loi, que vous la pratiquez, mais globalement, certains d'entre vous ne la pratiquent pas. Donc finalement, est-ce que c'est cette loi qui sauve, puisqu'on n'arrive pas à la pratiquer comme il le faut? En déroulant l'épître aux Romains, il va dire finalement, ce n'est pas la loi qui sauve, c'est la grâce de Dieu. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Mais pourquoi je prends cet accent ce matin? Parce que là, on peut dire, oui, ça, il s'agit des Juifs, mais les Juifs, dans ce passage, ils étaient considérés comme le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui sommes le peuple de Dieu. Donc, si je relis cette phrase en enlevant le mot juif et en mettant chrétien, ça peut nous intéresser de réfléchir à ça. Toi qui te donnes le nom de chrétien, qui te repose sur la parole de Dieu, qui te glorifie en Jésus-Christ, qui qui connaît sa volonté, qui apprécie les différences des choses étant instruit par la parole de Dieu, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la parole de Dieu la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui as fait une gloire de la parole de Dieu, tu déshonores Jésus-Christ par la transgression de la parole de Dieu. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Il ne s'agit pas de nous culpabiliser pour nous culpabiliser. Ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est toujours de dire, comment est-ce que ma vie chrétienne progresse? Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu nous mène dans le monde lorsqu'il nous sauve pour que nous soyons des chrétiens et pour que nos vies parlent à d'autres vies aussi. Vous savez que pour nous tous qui sommes là, pour la plupart d'entre nous, il y a de ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes, donc qui ont été influencés par la vie de leurs parents. Et puis il y a nous autres qui sommes nés dans des familles religieuses. Nos parents n'étaient pas des chrétiens convertis. Ils étaient des religieux. Et Dieu nous a rencontrés par d'autres personnes qui nous ont influencés par leur vie et par la parole de Dieu. Et je me dis toujours, s'il n'y avait pas eu mon cousin chrétien évangélique, je ne serais pas chrétien. Et je ne serais pas devenu pasteur. Dieu l'a mis sur mon chemin. Heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il a vécu sa vie en tant que chrétien. Heureusement qu'il a accompli cette mission de juste un jour, me dit Serge, tu es dans la mauvaise direction. Mais je vais te présenter celui qui te ramènera dans la bonne direction. Nous étions que des étudiants à l'époque. Il me l'a dit, il n'était pas pasteur, il n'était pas missionnaire, il était étudiant comme moi, mais étudiant chrétien, convaincu de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Imaginez le contraire, s'il était un chrétien tordu, un chrétien qui est similaire à cette réflexion de l'apôtre Paul dans Romains 2, qui dit des choses mais qui ne les vit pas, je ne suis pas sûr que sa vie m'aurait impacté. Et il y a quelqu'un, un grand homme de notre histoire de l'humanité, qui a été malheureusement impacté de la mauvaise façon par la vie d'une église. Et je vous lis ce témoignage. Il s'agit de Mahatma Gandhi, le grand Gandhi, qui a été le père de la libération du peuple hindou. C'est un témoignage qui a été écrit dans le pain quotidien de la Ligue de la lecture de la Bible. Et je le dis simplement, je relis ce qui a été écrit. Mahatma Gandhi était le fer de lance du mouvement de la lutte pour la libération de l'Inde du joug britannique. Ses pratiques religieuses hindoues et sa philosophie politique ont exercé une influence radicale et révolutionnaire sur des millions de ses compatriotes. Plus tôt dans sa vie, Gandhi a considéré la possibilité de devenir un disciple de Jésus. Attiré par sa vie et ses enseignements, Gandhi a assisté au culte d'une église de Pretoria, en Afrique du Sud. Plus tard, voici ce qu'il a écrit. La congrégation ne m'a pas frappé comme étant particulièrement religieuse. Ce n'était pas une assemblée d'âmes consacrées, mais plutôt des gens mondains allant à l'église pour se détendre et se conformer à la tradition. Il en a conclu que le christianisme ne pouvait rien ajouter d'important à l'hindouisme. Il s'est donc détourné de Jésus pour sa propre perte et pour la perte de toutes ces nombreuses personnes qui l'ont suivi. Et dans ce commentaire, il y a quelques questions. Ressemblons-nous à ces gens qui fréquentaient l'église de Pretoria? Notre adhésion au christianisme n'est-elle qu'une question de tradition, une façon agréable de jouir des relations sociales? Un inconnu qui cherche sincèrement à avoir une relation avec Dieu serait-il attiré ou rebuté par la qualité de notre adoration et de notre dévotion personnelle en Christ? Vivons-nous le christianisme que nous professons? Pratiquons-nous ce que nous prêchons? Régulièrement, les catholiques se définissent en deux catégories. Souvent, ils disent « je suis simplement catholique » et puis il y a un autre qui dit « je suis catholique pratiquant ». Et aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'évangélique, la question se pose aussi dans notre milieu. Je suis un chrétien tout court, je suis un chrétien pratiquant. Mahatma Gandhi ne s'est pas donné au Seigneur Jésus parce que l'église qu'il fréquentait à ce moment-là ne lui a pas donné le goût du Seigneur. C'est terrible ça. C'est terrible ça. Que Dieu nous aide pour que ce que nous proclamons, que nous demandons la force au Saint-Esprit de le vivre aussi, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans notre vie en tant que communauté rassemblée, Église de Jésus-Christ. Il semble que trop souvent, nous nous réclamons d'avoir une foi authentique en Christ et pourtant, nous ne pratiquons pas intensément ce que nous croyons de la parole de Dieu. Je me souviens de ce témoignage de ce monsieur qui parlait avec un chrétien de la mort. Et il avait l'impression que ce chrétien, certes, n'était pas suicidaire, mais que ce chrétien avait plus peur de la mort que lui. Et du coup, il a demandé, il a posé la question au chrétien, il dit, mais finalement, moi, j'ai un peu un doute. Est-ce que toi-même, tu crois en ton affaire de paradis? Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a une vie après la mort? La façon dont tu es plus anxieux de la mort que moi? Moi, je ne suis pas un croyant, mais vous savez, il y a des croyants qui disent qu'après la mort, il n'y a rien. Donc, ils sont tranquilles, mais en fait, ils ont tort. Mais comme ils sont convaincus qu'il n'y a rien, ils sont tranquilles. Mais sa discussion avec ce chrétien-là, et ce chrétien, c'est lui qui rend ce témoignage, dit, ça m'a questionné. Pourquoi est-ce que cet ami non chrétien avait l'impression que je ne croyais même pas au paradis? Alors que ça fait bien des décennies que je suis chrétien et que je dis que si je meurs, j'irai auprès du Seigneur. Parfois, nous confessons des choses, mais la façon de la vivre dit autre chose. Que Dieu nous aide bien aimés. Que ce que nous confessons soit en harmonie avec ce que nous vivons. On n'y arrive pas toujours. Ce n'est pas ça le problème. C'est d'essayer avec la force du Saint-Esprit de dire, on veut y arriver. Seigneur, viens nous fortifier. Et il est capable de le faire, n'est-ce pas? Dieu est capable. On l'a chanté, n'est-ce pas? Dieu est capable, frères et sœurs. Parce que c'est Jésus qui dit, voici ce qu'on attend d'un chrétien. Voici la bénédiction qu'il y a dans la vie chrétienne. Et c'est très tôt dans son ministère que Matthieu nous dit que Jésus a dit ça très tôt. Les béatitudes. On dit à la vue des foules, je suis dans Matthieu chapitre 5, à la vue des foules, Jésus monta dans la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Et prenant la parole, il les enseigna. Heureux, il va le dire comme ça, heureux, il va le dire comme ça 8 à 9 fois. Pour dire, vous êtes bien heureux, vous êtes bénis, vous qui êtes des enfants de Dieu et qui vivez selon ces paroles que je vous donne dans Matthieu chapitre 5. La diapo d'après. Et on va voir ça. Quelques éléments. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont des croyants, qui ont une humilité qui leur vient de Dieu et qui savent que Dieu est le maître de toutes choses et qui dépendent et qui se soumettent à Dieu. Qui ont une vie simple. La simplicité, c'est de croire que la parole de Dieu est vraie, que c'est elle qui me guide. Ceux qui ont la vérité de la parole. Ceux qui se sentent toujours avoir besoin de Dieu. Vous savez, le pauvre en esprit, c'est celui qui sent et qui est convaincu qu'il a toujours besoin de Dieu. Toujours besoin de Dieu. Et qu'il n'y a pas un domaine de sa vie qui soit plus insignifiant pour lequel il n'a pas besoin. Il a besoin de Dieu dans tous les aspects de sa vie. Qu'il soit insignifiant ou signifiant. Tous les aspects. Voilà le pauvre en esprit. Ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent, c'est ceux qui voient que le péché est grave et que le péché a des conséquences énormes et qui, en tant que chrétiens, font l'effort de ne pas vivre dans le mal, mais qui n'encouragent pas non plus les autres à vivre dans le mal. Qui pleurent parce qu'ils voient que le péché a des répercussions terribles. Terribles. Parfois, quand on est dans la ville, on voit des gens, enfin, là c'est la rentrée, vous allez dans les centres commerciaux, chacun va qu'à ses affaires. Et puis quand tu écoutes la radio, tu dis, mais tous ceux qui va qu'à leurs affaires, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent. Un tel a tué sa femme parce que machin truc, tu dis, mais comment ça peut arriver? Et parfois les voisins témoignent, mais hier, yeah, mais ils étaient là hier, yeah, mais on les a entendus hier, yeah, ils étaient ensemble hier. Yeah. Et puis le lendemain, parce que le péché est tapis à la porte. C'est ce que le Seigneur dit très tôt. Aux enfants d'Adam. Il dit, le péché est tapé à votre porte, mais vous dominez sur le péché. Mais sans Jésus, on ne peut pas. Sans Jésus, on ne peut pas dominer sur le péché. On peut y arriver plusieurs fois, mais On finit toujours par capituler. Ceux qui sont doux, ceux qui se soumettent à Dieu, ceux qui ne résistent pas à la parole de Dieu, ceux qui ne résistent pas aux ordonnances qu'on trouve dans les Écritures. Résister à la parole, ça ne veut pas dire ne pas chercher à la comprendre. Non, on cherche à la comprendre la parole de Dieu. Au contraire, Dieu nous encourage à chercher à comprendre la parole de Dieu, à l'étudier pour la comprendre. Et parfois, on peut avoir des questionnements, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une fois que tu as compris ça et que tu continues de résister, là tu n'es plus doux. Là tu es rebelle. Là tu es rebelle. Heureux les doux, n'est-ce pas? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est ce désir profond d'être en bonne relation d'abord avec Dieu. La justice de Dieu, ta relation avec Dieu. Est-ce que ma vie est plongée dans les valeurs de Dieu? Et c'est pour ton propre bonheur d'abord quand ta vie est plongée dans les valeurs de Dieu. Moi, j'ai compris une chose quand on dit Dieu est glorifié, que Dieu se réjouit. J'ai compris, parce que je suis maintenant parent, c'est comme quand un enfant commence à réaliser des choses que vous avez espérées pour lui. Vous dites, waouh, merci Seigneur. Vous êtes rempli d'un sentiment de joie parce que vous voyez cette progéniture en train de devenir quelqu'un, quelqu'une. Dans la famille, on va dire, ah, tu es béni. Mais toi, tu sais que ça n'a pas été simple. Que ça n'a pas été simple. Et Dieu est comme ça. Et quand on dit Dieu se glorifie, c'est ça. Il se glorifie parce qu'il voit qu'on est en train de réaliser ce qu'il nous avait destiné. Souvenons toujours que la parole de Dieu dit, ce que Dieu a prévu pour nous, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. La diapo d'après. Les miséricordieux, ceux dont les entrailles ne sont pas insensibles aux besoins des autres. Hein? Vous savez, on dit qu'il y a une différence entre la pitié et la miséricorde. La pitié, on est tous animés de pitié. Devant une situation difficile, en tant qu'être humain normal, on est toujours un peu peiné, touché. Mais celui qui est miséricordieux, il ne reste pas simplement touché, il agit tant qu'il peut pour aider à la solution. C'est ça la miséricorde. C'est une pitié qui rentre dans l'action, qui se met en action, n'est-ce pas? Et ça, les enfants de Dieu que nous sommes invités à le faire. Et gloire à Dieu parce que, voilà, de ce que j'ai vécu, de ce que je vis dans cette église, je peux dire merci Seigneur, parce que c'est une église qui ne laisse pas ses entrailles indifférentes. Et on a vécu des situations l'année dernière, et je bénis Dieu parce que l'église s'est levée, s'est mobilisée, s'est sensibilisée. Que Dieu bénisse l'église pour cela. Ceux qui ont un cœur pur, c'est un cœur simple, un cœur sans hypocrisie. Hein? C'est un cœur qui dimanche est chrétien et qui les 6 jours qui restent n'est pas chrétien. Non, c'est pas ça. C'est un cœur qui tous les 7 jours de la semaine est chrétien. C'est ça un cœur pur. Tous les 7 jours de la semaine, on est chrétien. Tous les 7 jours de la semaine, on est chrétien. C'est une évidence, n'est-ce pas? Mais je prie que cette évidence soit une pratique dans nos vies de chaque jour. Être chrétien, c'est un beau défi, c'est un très beau projet. C'est un très beau projet. Ceux qui font des œuvres de paix, des faiseurs de paix, des enfants de Dieu sont des faiseurs de paix, des artisans. Vous savez, l'artisan, c'est celui qui travaille de ses doigts, qui est dans l'action, qui nous sommes invités en tant que chrétiens et des artisans de paix. Ça fait partie de notre ADN depuis que nous sommes sauvés par Dieu, investis par Jésus-Christ. Nous sommes de ceux et de celles qui avons maintenant la capacité d'être des artisans de paix. Avant, nous ne l'avions pas peut-être. Mais maintenant, depuis que Jésus s'est investi en nous, nous avons cette capacité. Parfois, il faut la laisser se manifester. Parfois, il y a des résistances en nous, alors que Dieu nous a déjà dotés de ça. Nous sommes des artisans de paix. La paix se construit pas facilement. Hein? Enfin, ceux qui sont persécutés. La persécution a plusieurs formes. Mais celle dont Jésus parlait, c'est ceux qui vont finalement vivre leur vie chrétienne. Parce qu'ils sont des chrétiens. Et que parce qu'on est des chrétiens, parfois, ça peut engendrer des incompréhensions. Ça peut engendrer des oppositions. Ça peut engendrer même des choses plus difficiles. Pas parce qu'on les a cherchées, mais parce qu'on vit simplement ce que nous sommes. On est des chrétiens. On est des chrétiens. On est des chrétiens. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de sa grâce. Il dit que l'Esprit est disponible pour nous aider à aller dans ce sens-là. N'est-ce pas? Vas-y, s'il te plaît. Comment Jésus continue-t-il d'être lumière sur ma façon de vivre? Comment Jésus continue-t-il d'agir pour que ma vie soit une vie de chrétien, tout simplement, de chrétienne, tout simplement? Et là, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le mot « arme » a été utilisé parce qu'on traduit du grec une réalité de l'époque. Mais il ne s'agit pas d'un combat avec des armes, je ne sais pas moi, létales ou... Non, vous verrez tout à l'heure. Et pour ceux qui connaissent ce texte, il s'agit de traits de caractère. Il s'agit de valeurs dans la vie. Vas-y, s'il te plaît. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est ça, les armes spirituelles. Parfois, quand on parle de spirituel, on va tout de suite dans le monde surnaturel, on cherche des choses. Oui, Dieu nous donne des potentialités, mais il commence par nous donner des choses qui sont toutes humaines. Le combat, il est là, déjà, dans notre humanité, créée par Dieu. Les armes dont il parle, elles sont là. La diapo d'après. C'est des marques divines. C'est des traits de caractère des chrétiens matures. Je l'ai déjà dit, je ne le ferai pas ici, je l'ai fait le dimanche dernier. Nous sommes appelés à grandir en tant que chrétiens. C'est un processus naturel. Vas-y, s'il te plaît, mon frère. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire que le chrétien est investi par Dieu pour marcher dans l'amour. Dans la vérité de la parole de Dieu, bien sûr, la vérité de la parole de Dieu. Et pour marcher dans la vérité de la parole de Dieu, il faut la connaître. Si on la connaît pas, on peut pas y marcher. C'est des descriptifs qui prennent en compte une armure du soldat romain de l'époque. Donc cette ceinture pour la vérité, c'est celle qui tient, en somme, le costume de ce soldat. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, il semble que c'est ce chemisier assez solide et que le soldat portait pour protéger tout son corps. Cette justice, c'est la lumière de Dieu. C'est que le chrétien doit être exposé à cette lumière de Christ. Il doit refuser l'injustice. Il doit être droit et loyal. Et nous avons en nous, en tant que chrétiens, ces potentiels. Parce que Jésus nous l'a communiqué à notre conversion. Parfois, on l'a laissé en friche, donc il ne s'est pas développé. Parfois, on ne sait même pas qu'on l'a, et on fait autre chose. C'est pour ça que notre identité est importante. Il faut le savoir, pour que Dieu puisse continuer à activer ces choses qui sont déjà en nous. Mettez pour chaussure à vos pieds la bonne disposition que donne l'évangile. C'est marcher dans la sagesse. C'est comprendre la volonté de Dieu. C'est marcher selon le plan éternel que Dieu a fait. Le but de Dieu, racheter le temps. C'est être rempli de cette pensée de Dieu. Être zélé pour les choses que Dieu nous communique dans l'évangile, c'est de veiller sur notre attitude et notre service. Si ça a marché, il y a une veille, n'est-ce pas? Quand on commence à marcher, quand on est tout petit, les parents ont besoin de veiller parce qu'on n'est pas encore stable. Et on se stabilise et l'enfant commence à marcher. Et maintenant, quand nous marchons, c'est tout naturel. Dès qu'on est assis, qu'on se lève, on marche tout naturellement. Et c'est cette marche-là du croyant dans l'évangile, dans les vérités de la parole de Dieu. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. C'est que ta vie doit être fondée sur l'amour du Christ. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. C'est ça, ta force. L'amour de Dieu, il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce la mort? Serait-ce les tribulations? Serait-ce la faim? Serait-ce la richesse? Il cite un certain nombre de choses que nous pouvons rencontrer dans la mort. Il dit, non, personne ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Car Jésus est mort, il a payé un prix cher, et une fois qu'on est en Christ, il nous tient, il ne nous lâche plus, parce qu'il nous aime. C'est ça ton bouclier, c'est ça ta force. Jésus, il t'aime, il ne te lâche pas. Nous encore, on est bien quand les personnes qu'on aime sont bien avec nous, mais il suffit qu'il y ait une petite mésentente, une petite discussion, ou même peut-être un palabre grave, on passe à autre chose. Nos visages changent entre nous. Quand on se voit, notre sang fait un détour. La communication devient bégayante. Alors qu'on était bien la minute d'avant. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Même s'il nous reproche des choses, même s'il nous corrige, il ne se détourne jamais de nous. Mais n'empêche qu'il va nous, voilà, il va nous reprendre. Il va nous dire des choses, mais ne nous lâche jamais. C'est ça notre confiance, c'est ça notre bouclier. Cette foi, cette confiance que Dieu ne me lâche pas. Alléluia. Prenons aussi le casque du salut. N'est-ce pas? Le casque du salut. Comprendre que c'est la grâce de Dieu. Hein? Mon salut, c'est pas mes œuvres qui me font que je suis sauvé. De toutes les façons, si je faisais mes œuvres, je ne serais pas sauvé. Mais c'est la grâce de Dieu. Maintenant, cette grâce doit produire des œuvres. Amen. Et puis, finalement, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Si tu la connais, si tu l'aimes, si tu la médites, bah, elle devient une force pour toi, cette parole. Parce que tu peux te défendre contre des valeurs qui ne sont pas de Dieu, contre des choses que Dieu n'aime pas. Amen. Voilà ce rappel que je voulais faire pour ceux qui sont les plus anciens. Mais pour les nouveaux, c'est un enseignement nouveau. Il faut tenir dans ces choses. Il ne faut pas nous laisser absorber. Nous sommes des chrétiens, il faut tenir. Et puis enfin, un témoignage aussi. Pourquoi justement Jésus doit continuer à agir dans les chrétiens? Parce que Jésus a besoin de sauver encore plusieurs de ses enfants qui sont dans le monde. L'apôtre Paul, à un moment donné de son ministère, il était découragé. Son ministère d'évangéliste, il était découragé. Parce qu'il est allé dans cette ville de Corinthe. Et pendant plusieurs jours, il n'y avait pas de fruit de cette évangélisation. Et le texte dit, il le dira plus tard dans 2 Corinthiens, il dit, je suis arrivé à une période où j'étais découragé, je ne voyais pas les choses avancer. Et Dieu lui donne cette parole, en Actes chapitre 18. Le Seigneur dit à Paul en une vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il lui demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pourquoi nous sommes ici à Chrétien? Pourquoi depuis cette décennie nous sommes ici? Parce que Dieu a encore des hommes et des femmes à sauver. Alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin que Jésus soit lumière sur notre caractère, sur nos vies, pour que Dieu continue de sauver des âmes. Il a toujours un peuple nombreux à sauver. Nous n'étions pas sauvés. Heureusement qu'il y a eu des églises, il y a eu des gens qui sont levés. Terminons cette méditation de ce matin. Ma prière, au-delà de ces pensées qui me portent, ma prière, c'est que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que nos vies chrétiennes soient des vies naturelles devant Dieu. Que cette parole de Matthieu 5 puisse avoir une réalité quotidienne. Vous êtes la lumière. Tu m'en Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jésus ne nous a pas sauvés pour nous cacher. Il nous a sauvés pour que nous vivions en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, pour que notre lumière puisse éblouir d'autres personnes. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il faut en être convaincu. Mais il ne faut pas faire des choses extraordinaires. Il faut être juste la chrétienne que Dieu veut que tu sois. Il faut être juste le chrétien que Dieu veut que tu sois. Et progresser dans cette marche chrétienne. Parce qu'il dit au verset 16 justement, que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons devant toi et je transforme ce verset 16 en prière. Aide-nous, notre Dieu. Aide-nous pour que nos œuvres puissent briller de la bonne façon, afin que les hommes et les femmes continuent d'être attirés à toi. Pour la plupart d'entre nous, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont été touchés, transformés par toi et qui avaient à cœur de partager l'évangile que nous sommes là aujourd'hui, sauvés et dans cette grâce. Et en tant qu'Église, merci pour chacune des vies ici présentes. Merci pour notre Église de Créteil. Nous nous attendons à toi, Seigneur, en Jésus-Christ.